portrait de prof. Les enseignants du collège Jacques Prévert prennent la parole sur Radio Prévert 105.9. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 à Chalon et on va parler enseignement et choix de carrière aujourd'hui. Depuis 1994 se tient chaque 5 octobre la Journée mondiale des enseignants. Fondée par l'UNESCO, elle vise à sensibiliser le rôle des professeurs dans le système éducatif. Et à cette occasion, on va recueillir les témoignages dans cette série de portraits de plusieurs professeurs du collège Jacques Prévert de Chalon qui vont revenir à tour de rôle sur leur motivation à devenir enseignant. Et je reçois tout de suite Stéphane Claire. Tu es professeur en classe d'Ulysse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Alors donc tu es enseignant, comme je disais, en classe d'Ulysse. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste l'Ulysse?
Alors l'Ulysse, c'est pas une classe, c'est un dispositif. Il y a une petite différence dans le sens où en fait ce sont des élèves qui sont porteurs de handicap, qui sont scolarisés comme les élèves ordinaires dans des collèges de secteur normalement et qui suivent une scolarité un peu différente dans le sens où ils sont rattachés à une classe et en fait moi je les prends sur les temps de cours de français ou de maths, d'histoire géo ou d'anglais, ça dépend des profils des élèves, pour aller à un rythme un peu différent, parce que pour ceux-là, ça va un peu trop vite. Le collège Jacques Prévert accueille des élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives. En fait, c'est des difficultés par rapport à l'apprentissage. Il y a des fonctions exécutives, pour employer un grand terme, qui dysfonctionnent, pas toutes, certaines, comme l'attention, la mémoire de travail, par exemple, et qui, en fait, ralentissent le fonctionnement « normal », entre guillemets, du cerveau, ce qui fait qu'ils sont capables de faire des choses comme les autres, sauf que ça leur demande beaucoup plus d'énergie et ça les fatigue plus. Donc nous, on travaille autrement et on va à un autre rythme aussi. On utilise d'autres méthodes pédagogiques et on va au rythme des élèves. Donc ce qui fait qu'ils ont un emploi du temps qui varie de l'un à l'autre. Donc du coup, c'est un dispositif, c'est pas une classe.
En quoi c'est important pour toi, voilà, de travailler dans cette branche-là et pas avoir suivi finalement un cursus de prof classique? Comme prof de français, par exemple.
Avant d'être professeur coordonnateur d'Ulysse, j'ai enseigné une douzaine d'années en lycée professionnel. J'étais prof de français et d'histoire géo. J'étais historien à la base. Et puis, en fait, j'ai toujours été intéressé par ce qui était un peu différent. Lorsque j'étais en lycée pro, j'avais vu venir des élèves qui venaient de SECPA. Et ça me posait question par rapport à comment être efficace vis-à-vis de ces élèves. Donc je me suis intéressé aux élèves de SECPA, j'ai voulu enseigner en SECPA, ça n'a pas été possible. Et on m'a dit « Oh, c'est le même diplôme pour enseigner en prison ». Je dis « Ah bon ?» Et du coup, j'ai été enseignant en prison en vacation, en plus d'être enseignant en lycée pro. Donc j'ai vu des élèves encore différents, et je trouvais ça aussi très intéressant. J'ai passé la spécialisation, puis l'année où j'ai eu la spécialisation pour les élèves en difficulté, donc par handicap, en fait, dans mon lycée pro, on a accueilli une Ulysse pro, avec des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, qui avaient un handicap. J'étais pas prêt non plus, donc ça m'a questionné. J'ai échangé avec le professeur coordonnateur de l'Ulysse Pro à l'époque qui m'a dit « Oh, bah, si tu veux, tu n'as qu'à passer la spécialisation ». Donc ça a pris son temps, 4-5 ans, et puis je l'ai fait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit « Pourquoi pas partir dans l'enseignement spécialisé, vraiment à temps plein ». J'ai postulé sur le poste du collège Jacques Prévert et j'ai été pris. Et donc là, c'est ma 6e rentrée, si je ne me trompe pas, où j'accueille des élèves qui sont porteurs de handicap sur le plan cognitif. En fait, ça me plaît vraiment. J'adore et puis on n'arrête pas d'apprendre.
C'était justement une vocation pour toi d'enseigner depuis toujours?
Je sais pas. Moi, je suis issu d'une famille de paysans. Hein, tout le monde était paysan de génération en génération. Et mon arrière-grand-mère, elle lisait des livres comme ça et puis elle disait « J'aimerais bien que tu sois maître », ce qu'on disait maître ou instituteur. Et puis, je sais pas, ça m'a travaillé. Et en fait, au fur et à mesure, je sais pas, c'est une idée qui a fait son chemin. C'était pas un objectif que j'avais en tête, mais au fur et à mesure de ma scolarité, ouais, ça a mûri et je suis devenu prof, ouais.
Parce que justement, à côté du métier d'enseignant, t'avais d'autres perspectives peut-être en étant plus jeune?
Pas spécialement. J'étais un très bon élève. Il y avait juste les sciences où j'étais pas très bon, mais dans toutes les matières, j'étais vraiment bon. Donc j'avais pas de difficultés particulières, mais au fur et à mesure, j'étais passionné par l'histoire, donc j'ai suivi un cursus d'études en histoire. Et puis un peu de psychologie aussi. Ça m'est resté du coup. Au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement, en fait. Sans me dire, durant toute ma scolarité, il faut que je devienne prof.
C'est aux fonctions d'expérience, des affinités, peut-être aussi,
Et puis, l'enseignement spécialisé aussi, comme j'ai dit, je me suis toujours intéressé un peu aux élèves qui étaient un peu à part, tout ce qui était un peu hors norme. Et puis, les élèves qui ont un peu moins que les autres. Ça, j'ai toujours voulu un peu me battre, même dans le plan associatif, pour ceux qui avaient moins. Et ça peut être le fil rouge peut-être de mon évolution, c'est-à-dire m'occuper de personnes qu'on met un peu de côté et pour les aider à avoir un petit peu plus et se situer au même niveau que les autres.
Les soutenir en quelque sorte, les aider à progresser à leur rythme peut-être, en tout cas en classe d'Ulysse, en tout cas au sein de la discipline Ulysse. Et justement, donc tu me disais que ça faisait 5 à 6 ans que tu étais au collège Jacques Prévert. Et pourquoi le collège Jacques Prévert en l'occurrence? Est-ce que c'est les opportunités au final qui a fait que tu te retrouves au sein de cet établissement?
Ça s'est, alors je veux pas rentrer dans tous les détails, mais ça s'est passé à un moment où ça se passait pas bien dans mon ancien établissement. J'étais en désaccord avec la direction sur plein de choses. J'en avais même pâti un peu au niveau de la santé. Et je me suis dit, c'est le moment. Là, c'est bon, je m'en vais. J'avais fait 12 ans en lycée pro, qui était pas facile. J'aimais ça, hein. Je pensais en avoir quand même un petit peu fait le tour et surtout j'étais fatigué et de me battre avec certains élèves et puis aussi avec l'équipe de direction. Donc j'ai dit je m'en vais, j'ai postulé, j'avais le diplôme d'enseignant spécialisé, je suis parti et il y avait 4 possibilités qui s'ouvraient à moi et la plus proche géographiquement c'était le collège Jacques Prévert, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu le poste.
D'accord, donc changement d'univers.
Changement d'univers, mais on reste toujours dans des élèves qui sont un peu restés sous le carreau par rapport au système éducatif français.
Et justement, chaque année, donc ça fait maintenant 5 ans, comme je le disais, est-ce que c'est pas un peu répétitif de peut-être de refaire les mêmes choses? Est-ce que c'est pas tomber dans la routine au final?
Non, pas du tout. Toutes les premières années, au contraire, parce que j'avais tout à refaire. Je devais enseigner des matières que je n'avais jamais enseignées auparavant. Et moi, j'adore ça, découvrir de nouvelles choses, donc notamment les mathématiques. Alors, j'avais le niveau, hein, sans problème. Mais c'était tout le côté didactique, il a fallu que je planche dessus. Donc rentrer dans une nouvelle lecture. Non, parce qu'on a des projets différents d'une année à l'autre, et puis les élèves sont différents, et puis on fonctionne un peu de manière spiralaire. On revoit certaines choses. Alors déjà, nos élèves ont tendance un peu à oublier quand même, hein, en particulier les élèves qui sont dans le listrope des fonctions cognitives. Donc, on va retravailler certaines choses, mais d'une autre manière. Et puis, à chaque fois, on réapprofondit. On va toujours un petit peu plus loin. C'est ce que j'expliquais aux élèves à la rentrée. Ils m'ont dit, oh, moi, on l'a déjà fait l'an dernier. Alors déjà, c'était bien. Ils avaient oublié certaines choses, mais j'ai repris un peu au milieu de ce qu'on a fait l'an dernier, ce qui fait qu'on va aller un peu plus loin dans le cours de l'année. On l'aborde sous différentes manières.
Pédagogique,
on a des projets pédagogiques, mais aussi des angles d'attaque différents. Par exemple, sur l'écriture, l'an dernier, on avait fabriqué des albums pour enfants que les élèves avaient illustrés, avaient présentés à des élèves d'école primaire. Et cette année, on reste sur l'écriture, on travaille sur les mêmes objectifs de maîtrise de la langue, mais cette année, on va faire un tour du monde. Donc, on va mixer le français et la géographie pour découvrir des cultures étrangères. Donc, on va étudier plutôt des textes documentaires et ils vont devoir rédiger eux-mêmes des textes à partir de ce tour du monde. On travaille les mêmes compétences, mais du coup, on n'étudie pas les mêmes textes, on fait pas les mêmes choses. Donc, ce qui fait que ça se renouvelle sans cesse.
Donc, de manière générale, pour résumer, c'est refaire la même chose comme tu disais, mais d'une manière différente pour peut-être porter du positif et du plus dans l'apprentissage. Et justement, t'as une longue carrière en quelque sorte dans l'enseignement. Est-ce que t'as eu des moments difficiles, que ce soit vis-à-vis du travail, t'en as déjà parlé un petit peu, mais vis-à-vis des élèves ou même de tes débuts par exemple?
Pas les débuts, non. Non, plutôt ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, disons que c'est venu des élèves en partie, mais c'était le manque de suivi de la direction à l'époque. On avait changé de direction, on était dans un établissement très compliqué, très difficile, qui me plaisait. C'est mon côté un peu maso. J'aimais la difficulté, mais à un moment, voilà, on avait du soutien de la direction quand il y avait des problèmes difficiles, hein, quand même, avec des élèves qui étaient à la limite de la délinquance. Mais tant qu'on avait un soutien de la direction, ça allait. L'année où ça a changé au niveau de la direction, on a plus soutien et disons que ça a été quelques années de galère pour moi et d'autres collègues d'ailleurs. Mais là où j'ai dit stop, c'est au moment où la santé en a pâti. J'ai dit non, on passe à autre chose, sinon je vais y laisser des plumes. Et ça, c'est mon plus mauvais souvenir. Et le fait d'être parti, parce que 12 ans dans un établissement,
ouais, c'est pas rien.
Ça crée des liens, et puis on sent un petit peu chez soi.
Les habitudes.
Ouais, on a des habitudes, et puis le fait de partir, c'est peut-être on se dit sinon finalement on a perdu quoi. On abandonne. Ce qui n'était pas le cas, mais je savais que j'avais raison, que c'était pas ma faute. Mais le fait de partir, c'était une forme d'abandon du terrain.
Peut-être pour mieux repartir après. Justement.
Pour mieux repartir. Et finalement, j'en suis très content parce que je fais un autre métier, c'est radicalement différent. Enfin, radicalement, c'est différent, vraiment différent. Je m'épanouis complètement, donc je regrette pas du tout d'être parti maintenant.
On va revenir maintenant un peu sur la journée mondiale de l'enseignement, en tout cas de l'enseignant. Cette année, le thème, c'est le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Qu'est-ce que tu aurais à dire face à ça? Finalement, c'est logique d'avoir des profs qui sont compétents pour enseigner des matières à nos élèves, par exemple.
Alors là, tu ouvres une boîte de Pandore sur laquelle j'aurais plein de choses à dire, ouais. Pour la formation des enseignants. Donc, à côté de ça, je suis formateur. Je forme sur les questions des troubles des apprentissages et puis la différenciation pédagogique. C'est vrai que avec le collège unique et la scolarisation de plein de publics dont on se débarrassait auparavant, bah, les enseignants ont dû prendre en charge des élèves qu'on mettait de côté jusque-là. Et avec la loi 2005 sur le handicap, ça s'est encore accru, cette problématique. Et en fait, on demande à des enseignants d'accueillir des élèves qui rentrent pas dans le moule, alors qu'on les forme pas vraiment. Personnellement, je trouve que la formation, surtout dans le second degré, est trop axée sur la discipline, la didactique. Et encore, je sais même pas si dans toutes les matières, la didactique est vraiment abordée à chaque fois. Pour ce que j'en connais, je dirais que c'est vraiment effleuré. Il y aurait un gros travail à faire, ouais. Et en fait, la formation continue, c'est-à-dire la formation une fois qu'on est enseignant et tout au long de la carrière, la manière dont c'est fait, c'est pas satisfaisant. C'est souvent une journée, voire deux journées. Puis après, ben, chacun rentre dans ses classes et puis on n'en reparle pas. Alors que je envisagerais moi plutôt la formation en interne, entre collègues, entre pairs, qui discutent de problèmes de métier, seraient en train de chercher des solutions ensemble, plutôt que d'avoir un formateur qui sait tout, qui dit voilà comment faut faire, maintenant débrouillez-vous.
Oui, parce qu'au final, c'est que de la théorie et c'est pas de la pratique en quelque sorte, c'est
ça ? On peut faire un peu de pratique. Mais disons que en essayant des choses, on peut pas calquer exactement de la même manière. Mmh. Et en fait, c'est toujours un aller-retour. Hein. Moi-même, hein, je suis formateur, mais je suis pas satisfait de ce que je fais. Hein, et j'apprends des fois de stagiaires. Justement, c'est ce travail permanent qui nous manque, ce temps de travail pour se concerter ou qui nous permettrait d'avancer, qui fait défaut au niveau de la formation.
Eh bien, plus légèrement, on va refermer cette interview. Mais juste avant, est-ce que tu aurais justement une anecdote ou quelque chose qui t'aurait marqué positivement pour le coup durant cette carrière dans l'enseignement en quelque sorte?
Alors, des anecdotes, on en a toujours plein. On en avait une par jour, si tu veux. Non, peut-être le plus beau souvenir que j'ai eu, il y en a une en particulier, c'était un projet que j'avais mené sur 2 ans en lycée pro avec des élèves, c'était en BEP. C'était presque le début de ma carrière, c'était peut-être au bout de la 3e année de ma carrière. On avait mené un projet avec un autre lycée. C'était le lycée Émile Angotet, avec l'atelier couture. Et en fait, avec mes élèves de maçonnerie, de peinture, je crois. Ouais, c'est ça. On avait écrit une pièce. Donc, les élèves avaient écrit une pièce. On avait collaboré avec un artiste, un metteur en scène. Et durant toute la première année, on avait réfléchi sur l'écriture et la mise en scène. On avait fait en fin d'année, de première année scolaire, une sorte de work in progress. On avait montré où on en était.
Voilà. L'avancement,
voilà, une petite représentation pour donner une idée de ce qu'on avait déjà produit la première année. Et la deuxième année, on a mis les bouchées doubles, donc on a peaufiné le texte, la mise en scène surtout. On avait travaillé de très près avec les collègues de couture pour les costumes. On avait réfléchi à ça. Et ça tombait l'année des 40 ans du lycée. Donc, il y avait une grosse manifestation avec présence d'inspecteurs, du recteur de l'époque, de chefs d'établissement, et puis de tous les anciens élèves et profs du lycée durant 40 ans qui avaient répondu à l'appel. Et donc, on avait 2 représentations.
La pression, j'imagine, un petit
peu
quand
même. Ah oui, méga pression. On avait mobilisé un atelier, on avait fait venir des estrades dans l'atelier plomberie, je me souviens. Donc, beaucoup de moyens. Donc, méga pression, parce qu'on m'avait vraiment donné carte blanche et donné beaucoup de moyens. Il fallait vraiment assurer.
Surtout que c'était un projet qui était long.
C'était un gros projet de 2 ans qui occupait toutes nos heures de cours en français, je me souviens. Je me questionnais à l'époque est-ce qu'on faisait plus d'orthographe vraiment, on faisait plus de grammaire, voilà. En fait, à la fin, on a assuré, les élèves ont assuré, ils ont été applaudis, enfin, c'était vraiment une grosse, grosse réussite. Quand je croise des élèves, des fois, dans la rue, parce que ça remonte déjà à plus de 15 ans, on rajeunit pas, et m'en reparle. Ils me disent, vous vous souvenez, on avait fait ça, et ils allaient reculons au début, puis finalement, je leur avais dit, vous verrez, ça vous fera plaisir, vous vous en souviendrez toute votre vie. Et puis, en fait, quand je les crois, c'est ce qu'ils me disent.
Donc, c'est resté dans
les
mémoires,
voilà,
quelque sorte, les a marqués.
Voilà. Et puis, moi, ça m'a marqué, j'y pense régulièrement, j'ai le CD, j'ai des photos, et je recroise régulièrement aussi l'acteur et metteur en scène, et on en reparle. Et lui aussi, ça l'a marqué, parce que c'était pas facile, c'était un public très difficile, en échec scolaire, bien souvent, en rupture avec l'école. On les avait un petit peu rabibochés et même on répétait les mercredis après-midi. Donc en plus des heures qu'on faisait de cours, en plus des cours, ils restaient. alors qu'ils auraient pu rentrer chez eux. Et non, ils restaient pour répéter. Et ça, c'est des super souvenirs.
Donc ça les intéressait quand même plutôt pas mal au final.
Au final, ouais. Mais il a fallu quand même batailler pendant un an. Parce qu'ils n'en voyaient pas du tout la finalité. Et en fait, au fur et à mesure que ça avançait, on les a emballés, quoi. Ça, c'était bien. Vraiment un super souvenir.
D'accord. Et un autre souvenir peut-être, non?
Un autre souvenir, un plus court, en prison, tiens. Ouais, la Corée, tiens, en Corée. Eh ben, on en reparlera sans doute dans l'année. Là, c'est durant cet été, donc avant la rentrée scolaire, donc les deux dernières semaines du mois d'août, je suis parti 2 semaines en Corée du Sud, dans le cadre d'une mission d'échange entre la France et la Corée, où on était 8 enseignants français. On est allé dans des établissements scolaires coréens. Alors moi, ce qui me concerne, c'était dans le spécialisé, où on observait des pratiques de classe avec de nos collègues. Moi j'avais 2 binômes coréennes. Donc dans un premier temps on les observait et puis après on prenait en charge des classes. Donc on enseignait donc en anglais, tout se faisait en anglais et les collègues coréennes en ce qui me concerne traduisaient en coréen. Donc il fallait préparer tout ça. Et c'était vraiment intéressant. J'ai vu plein de choses intéressantes. On dit des choses bien et moins bien sur le système éducatif coréen. J'avais lu des choses. Et j'en suis revenu en ce qui concerne l'enseignement spécialisé avec une autre approche. Et puis je découvre une culture mais fabuleuse. J'ai adoré. Et puis je me suis fait 2 nouvelles amies. J'ai hâte de les retrouver au mois de janvier. Donc ce sont elles qui vont prendre en charge mes élèves.
Donc à Chalon.
Durant 2 semaines, voilà, au collège Jacques Prévert, où elles vont faire découvrir la culture coréenne à mes élèves. Et on va voir aussi si elles peuvent pas intervenir dans les classes ordinaires plus largement, pour que tout le monde en bénéficie. Et puis leur faire découvrir la culture française par ailleurs. Donc normalement, on aura l'occasion peut-être de les interviewer sur les ondes de Radio Prévert.
Et justement, entre la Corée et la France, pour terminer, au niveau du système éducatif, quelles sont finalement les grandes différences, peut-être dans l'apprentissage, dans les méthodes de travail que tu aurais pu découvrir?
Là, si tu veux, tu vas m'emmener jusqu'à demain soir, parce que
en synthétique.
Allez, ça va faire des grosses focales. Déjà, on n'a pas les mêmes moyens du tout, financiers et matériels. C'est énorme. Chez nous, on a plutôt des gouvernants qui nous disent la priorité c'est l'éducation, mais on en reste au stade de la parole. Là-bas, ils ont vraiment les moyens. C'est criant. J'ai pris plein de photos quand j'ai montré à des collègues. Ils m'ont dit, mais c'est de la folie, quoi. Ils ont peu d'élèves aussi en classe. Voilà. Après, pendant, j'ai vu des fois des séances de classe avec très peu d'élèves, qui pour moi n'est pas forcément un bien parce que ça limite l'interaction. Autrement, non, ils ont vraiment d'énormes moyens en termes de mobilier, d'équipement, et puis dans leur prise en charge des élèves. Alors je parle uniquement du spécialisé parce que le constat est différent pour le second degré. Pour les élèves qui relèvent du champ du handicap, et en particulier dans le premier degré, hein, parce que c'est surtout ce que j'ai pu observer, il y a une bienveillance vis-à-vis des élèves qui ont des troubles, qui auraient parfois tendance à nous faire un peu péter un câble. Et en fait, moi, ça m'a fait réfléchir sur ma propre pratique, parce que ils acceptent un certain nombre de choses, ils ne placent pas le curseur au même endroit. Le fait de se mettre en colère ou de punir ou je ne sais quoi peut générer des problèmes. Eux, ils se fâchent pas, ils prennent l'élève tranquillement, et en fait, l'élève naturellement repart dans une dynamique de travail. Et du coup, on n'a pas fait monter la température. Tout le monde ne s'en trouve pas plus mal. Il ne rajoute pas de la négativité à la négativité, on va dire.
D'accord, donc il n'y a pas de violence en résumé.
Ouais, exactement. Et puis, autrement, des trucs tout bêtes, des petites choses qui m'ont surpris.
Interpellé,
mais qui me font sourire. C'est, par exemple, quand on rentre dans un établissement scolaire, on pose ses chaussures, et on est en pantoufles, et même les profs, même les chefs d'établissement, on est en claquettes. Et ça fait bizarre d'être en claquettes en train d'enseigner. Voilà, des petites choses comme ça. Il y aura plein de détails. Je pourrais en parler pendant des heures. Ou alors, on mange dans la salle de classe. Ce sont les profs qui assurent le service dans certaines écoles. Et c'est considéré comme du temps de travail. Et à partir, dans le premier degré, les enseignants quittent leurs élèves à 13h30. Et de 13h30 jusqu'à 16h30, les enseignants restent dans l'établissement. Ils n'ont plus d'élèves. Ce qui fait que ils sont libres. Ils doivent rester à l'établissement pour corriger leurs copies, pour préparer les cours. Surtout dans le spécialisé, il y a beaucoup de préparation. Et puis, pour rencontrer les collègues. Ce qui fait que ça favorise le travail en équipe. Le temps de formation se fait sur ce temps-là, donc il n'y a pas d'heure de cours qui saute.
D'accord.
Et c'est comptabilisé comme du temps de travail, c'est reconnu. Donc on ne dit pas que les profs travaillent 18 heures, comme on dit en France, hein, parce qu'on travaille bien à la maison, mais c'est pas reconnu en France, alors que chez eux, ils travaillent 40 heures et c'est du temps à la maison. Ce qui fait que quand on leur raconte que nous, dans des réunions, des fois jusqu'à 9h, 10h du soir, ils sont complètement surpris, parce que c'est pas du tout dans leur culture, pour l'enseignement, hein, je parle. Hein.
Ouais.
Parce que dans le privé, ils travaillent jusqu'à 2h du matin, parfois. Mais dans l'éducation nationale coréenne, ce temps de travail est reconnu en tant que tel.
Voilà. Donc il est payé au final pour résumer.
Il est payé, Il est payé, reconnu, et on n'a pas des fois cette mesquinerie de dire ouais, les enseignants ils travaillent que 18 heures, qui est faux. On
travaille en plus, on voit que la partie
En fait, on travaille autant parce qu'il y a des recherches qui ont travaillé sur le travail enseignant français, c'est 40 heures à peu près, et on est voilà autant qu'eux. Et en termes de vacances, ils ont une semaine de moins que nous.
Donc c'est-à-dire voilà. Une semaine de vacances
tout compris dans l'année, je sais, 32 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont deux fois des grandes vacances. Au lieu d'avoir deux grandes semaines de vacances en été comme nous, ils ont deux grands mois. Ils ont deux fois un mois. Ce qui fait que ils ont des vacances en été, des grandes vacances en été et des grandes vacances en hiver. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir se libérer pour venir chez nous au mois de janvier.
D'accord. Une organisation finale, mais deux cultures, deux méthodes différentes.
Exactement.
Très bien. Bon, on arrive à la fin de cette interview. Merci Stéphane.
Mais de rien, merci Stéphane.
À savoir que cette journée mondiale des enseignants 2018 marque également le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme datant de 1948. Elle inscrit l'éducation parmi les droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire avec un accès équitable et inclusif à l'éducation pour tous les enfants. Voilà, très bonne journée sur les ondes de Radio Prévert 105.9. C'était Portrait de prof sur Radio Prévert 105.9, la radio qui vous change d'univers.